Bonsoir à tous, bonsoir, c'est Djibouti qui commence. Voilà, salut Alexis, bien le bonjour.
Oui, salut à tout le monde.
Voilà, alors Alexis, tu vas bien ?
Oui, bien, et toi-même ?
Ça va bien. On va pas tout raconter maintenant. Mais donc voilà, on est parti. C'est Djiboutique. Bonsoir à tous. Et bienvenue donc à l'émission des musiques du monde sur Radio Panique. On vous emmène aujourd'hui pour une balade. Enfin, on continue un petit peu la balade qu'on avait commencé il y a... ça commence en fin novembre, hein, dans ces eaux-là. Donc, avec un premier épisode d'ouverture sur l'histoire, le contexte, un petit peu de génération du calypso, donc ce genre musical des Antilles. Et puis, on avait enchaîné avec un deuxième épisode où on s'était concentré sur une chanson en particulier. Et maintenant, on va continuer. Alors, on est en notre épisode avec quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps quand même, hein, je crois.
Carnaval.
Ah, oh, c'est ça.
Et percussion. Ça, c'est le titre pour aujourd'hui. Et oui, ben, on y arrive justement à Carnaval, ici comme ailleurs. Et c'est un des moments essentiels de la vie de Trinidad, comme je pense quasiment partout dans les Antilles, en Amérique du Sud, mais... C'est, je dirais, au moins aussi fort là-bas que ça ne l'est au Brésil, par exemple, pour les carnavals les plus connus, qu'on ait une idée de comparaison, mais, entre guillemets, beaucoup plus familial. Il y a plus moyen de s'intégrer dans les cortèges, etc., même si c'est quand même assez organisé, et de faire partie du truc, quoi.
C'est du vécu, là, ou bien tu
non,
nous parles
de l'exploration.
D'accord.
Non, malheureusement, je ne suis jamais allé là-bas.
Je crois.
Certainement pas à Carnaval. Après, si j'ai bien compris, il faut des budgets aussi pour actuellement pour le Carnaval de Trinidad. Enfin, à
Port
de Spain,
en
tout cas.
Pour participer
Pour tout.
Pour tout.
Oui.
Le voyage,
l'émission. Les grandes soirées, les compétitions de pré-Carnaval dont on touchera un mot tout à l'heure.
Ouais.
Ça va dans les quelques centaines d'euros, les places, des trucs du genre. Ça...
Carrément.
Ouais.
Bon, ok, bah on fera pas un sujet là-dessus, je crois, mais bon, on en reparlera après hors antenne, peut-être. On va passer le générique, le sous-générique. Enfin, excuse-moi le mot, mais...
Oui, ben, une chanson d'introduction, disons à l'esprit du carnaval, même si la chanson elle-même est encore un vieux calypso, on arrivera à des trucs plus rythmés après. Avec Lord Caresser, Carnival is Bacchanal. Et voilà, pour résumer ce qu'il raconte, ben vous entendrez très souvent « we don't care », donc « on s'en fout », entre guillemets, de tout le reste, sauf du carnaval. Et à la fin aussi, il y a une allusion amusante, c'est que certains estiment que ce n'est pas un jour férié, mais si, moi je prends congé. C'est carnaval et on s'en fout.
Carnaval is a bacchanal, so we don't care. It's a Creole fête that we can't forget to do.
Oh, we don't care.
We're gonna start the amusement in the tent, so
we don't care.
Go with me bottle and spoon when I play the tune, do.
We don't care.
Caressa ain't no millionaire, but
we don't care.
I'm a young Creole, so brave and bold, so
we don't care.
Oh, when I tumble play, you're gonna hear me say,
we don't care.
Some people say there's no holiday, but
we don't care.
I'm gonna have me day, I ain't walking no way.
Oh, we don't care.
Drinking me rum when I'm feeling numb, doo-doo.
We don't care.
Tumbling down, rolling around.
Oh, we don't care.
With a shouting here and a fighting there, doo-doo.
We don't care.
Voilà, alors on vient d'entendre le sixième coup de l'heure du lundi matin. C'est un vieil enregistrement des années 70, je pense, ou même 60. Mais la date n'est pas mentionnée. Parce que le carnaval à Trinidad se déroule en deux jours, et on peut même en rajouter un troisième. Ce dont on parlera dans quelques minutes. D'abord, un tout petit rappel historique. Donc j'en avais un petit peu parlé dans la première émission. Le carnaval à Trinidad a subi une énorme influence de planteurs français au départ et de lois anglaises par la suite. Alors, au départ, donc, les esclaves voyaient les maîtres français qui étaient arrivés à Trinidad fin 18e, début 19e siècle tenir des masquerades, donc des bals masqués. Et vite, les esclaves vont imiter ça clandestinement et ils vont appeler ça des camboulés. Camboulés, c'est la prononciation anglophone actuelle de canne brûlée. Donc c'était une fête de récolte au départ. Alors, selon certains, c'est la fin des récoltes et on est content que ce soit fini. Pour d'autres, on brûle les cannes parce qu'on en a marre, de toute façon. Toujours est-il qu'on brûlait des cannes, les cannes à sucre à la fin des récoltes, en forme de fête. Voilà. Mais ça restera clandestin tant qu'ils auront le statut d'esclave. Ce n'est qu'à la libération vers 1838 qu'ils pourront se mélanger avec les blancs dans les carnavals. Mais donc, à moitié à part quand même, ils vont tenir un dimanche eux-mêmes tout seuls. Qui sera le dimanche de Camboulé, et ensuite lundi et mardi seront des fêtes partagées par les deux communautés, on va dire, ou même les 40 000 communautés, parce qu'il y a beaucoup de gens différents à Trinidad, rappel aussi du premier épisode. Ce qui fait que finalement, les deux jours les plus importants sont le lundi, qui commence par le Jouvert, et puis le Mardi Gras. Le Jouvert, encore un vieux mot hérité du français, c'est le jour d'ouverture. Et il est assez spécial à Trinidad, puisque dans les premières heures du matin, donc à partir maintenant de 4 heures du matin même, pas 6 heures comme sur le disque qu'on vient d'entendre, les gens sortent dans la rue et se roulent dans la boue, la peinture, des paillettes ou autres trucs en poudre de tout genre. C'est le moment le plus sauvage, on va dire, de ce carnaval, et celui où on vous conseille de mettre des vêtements que vous ne mettrez plus jamais après. C'est une fois que Jouvert est passé que commenceront les vrais défilés pendant deux jours, donc du lundi et du mardi gras. Et avant ça, le dimanche qui était le camboulé des esclaves à une époque, ou des tout juste ex-esclaves, devient le dimanche gras, et c'est celui où il y aura les finales de toutes les compétitions de chant, de calypso, donc encore aujourd'hui, ou de steel band notamment. Donc il y a les grands panoramas, c'est la compétition de steel band de Trinidad. Il y a le calypso monarch, avec l'élection du calypso king et de la calypso queen, donc les chanteurs les plus malins, brillants, qui excellent dans leur domaine. Et après, en général, il y a des soirées en tout genre, en tout sens, dans tous les coins de la ville et du pays, mais particulièrement à Port of Spain. Et la plupart des gens, en fait, enchaînent le lundi matin sans avoir dormi la veille. Donc, voilà, il y a toutes sortes d'états de gens. J'ai eu un drôle de retour micro, désolé. voilà, et ce qui nous permet d'entendre d'abord l'ambiance dans les tents, comme on les appelle, donc les lieux fermés où on chante le calypso, avec le Jody Buddy Williams Band et son Carib Jazz. Je vous conseille d'écouter le public à l'arrière du groupe, moi, ça me donne une vraie idée d'ambiance dans la salle. Voilà, petite transition, ce des vinyles, ça ne se laisse pas faire comme un MP3 ou un CD. C'est parti.
Et voilà, on entre de plein pied, Alexis.
Voilà, ça c'était, on va dire, Dimanche Gras. Et le lendemain, on se réveillera donc pour les vraies percussions des deux jours de folie qui vont suivre. Et ces percussions, c'est toute une histoire qu'on voulait aussi vous raconter ici. Donc, je précise en passant que nous ne sommes que deux dans le studio. Ni Hubert, ni Cyprien n'ont pu être là. Mais Cyprien sera quand même un peu là avec nous via des disques, des morceaux que j'ai eu grâce à lui. Donc merci Cyprien et vous l'entendrez la prochaine émission d'Office dans un mois.
Voilà.
Donc pour revenir à notre histoire des tambours, donc les Français ont disons établi le rythme carnavalesque, même si pendant un moment, comme dans beaucoup d'endroits, les anciens esclaves ont fêté le carnaval plutôt début août pour fêter la libération de l'esclavage. Ils se sont vite recalqués sur le modèle traditionnel du carnaval tel qu'on le connaît, en tout cas point de vue des dates. Mais les tambours, c'est une toute autre histoire. Donc au début, j'avais parlé des tambours qui accompagnaient les combats de bâtons. Ceux-ci vont être interdits par les Anglais vers début 1880. Donc, en fait, les Anglais ont d'abord voulu interdire tout court les cérémonies de carnaval parce qu'ils les trouvaient trop violentes, trop indécentes, trop tout ce qu'on veut. Et pas toujours à tort, mais bon, de là à interdire. Donc, les policiers anglais, traditionnellement armés de matraques, ont pas fait le poids face à la foule armée de bâtons traditionnels, des combats de bâtons et autres. Et ce sont les grandes émeutes du Camboulay de 1881 qui vont faire que les Anglais vont devoir abandonner l'interdiction du carnaval, mais vont quand même interdire quelque chose, parce qu'il fallait interdire quelque chose, et ce sera les tambours principalement. Et plus tard aussi, les masques, pour que les éléments violents ne puissent être repérés dans la foule, parce que c'est comme maintenant, on n'aime pas les Black Blocs parce qu'ils mettent des cagoules. Ben, un peu la même chose, ce qui va engendrer le Jouvert dont j'ai parlé tout à l'heure, on se couvre de peinture et d'autres machins, ben, de nouveau pour pas être reconnu au départ.
Oui, c'est vrai que tu en as parlé de ça, du Jouvert, c'est bizarre comme nom quand même.
Jour d'ouverture.
Le jour d'ouverture, ouais. Jouvert.
Jouvert.
Ok.
Et voilà, et donc...
Jouvert en créole alors, on va dire.
Oui, ça c'est une contraction...
Ouais.
Ça commence comme jour, donc il n'y a pas besoin de répéter deux fois « ou ». C'est trop compliqué, et puis on met le vert tout de suite. Voilà. Disons, oui, on parlera du créole dans une autre émission, c'est prévu à part. Mais en effet, si on veut un tout petit définition, moi je dirais, c'est en partie une langue simplifiée par les gens à qui on force de la parler alors qu'ils sont... originaire d'un groupe linguistique complètement différent, donc c'est compliqué. Et deuxièmement, beaucoup de maîtres d'esclaves, simplement, ne trouvaient pas qu'il était nécessaire de leur apprendre les subtilités de la grammaire et tout ça, et puis toi viens ici, ça suffit. Donc c'est aussi dans l'éducation même qu'on leur a proposé, entre guillemets, que ça s'est joué. Mais voilà. Cela dit, on s'écarte de nos tambours... qui sont interdits. Donc la première réponse musicale à ça, c'est le tambou bambou. Alors ça c'est de nouveau une prononciation anglaise de deux mots très prononçables en français, tambour bambou. Donc ce sont des bambous plus ou moins grands, plus ou moins gros, il y a des tailles différentes pour avoir des notes différentes, qu'on cogne sur le sol et en même temps on peut aussi les frapper avec un bâtonnet. Ce qui donne des rythmiques vachement complexes. Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps et j'ai surtout pas de bon enregistrement de tambou bambou. Mais il y a encore des orchestres actuellement, des gens qui font du tambou bambou, surtout à carnaval, dans les coins de rue, etc., à Trinidad ou ailleurs. Voilà, mais ceux-là, début des années 30, vont aussi être interdits. Alors là, j'ai pas vraiment la raison... spécifique, mais on peut imaginer que comme c'est aussi des bâtons, finalement, même s'ils sont un peu plus larges, il y a moyen de taper des policiers avec et que ça n'allait pas pour l'autorité. Donc voilà, on les interdit aussi. Et c'est à partir de là qu'on va se mettre vraiment à retaper sur n'importe quoi. Boîte de biscuits, machin et tout. Il y aura des phases, même des petites modes temporaires, genre la porte d'ouverture de la lessiveuse. Avec sa forme caractéristique, dans laquelle on peut mettre de l'eau, mettre un petit élément en métal qui flotte par-dessus, un petit couvercle ou quoi, et cogner dessus. Il y a eu une mode des couvercles de poubelle qui a désespéré les ménagères de l'époque parce qu'on leur volait les couvercles de leurs poubelles dans la rue pour en faire des instruments, etc. Jusque plus tard, on tombera sur les fameux bidons dont on fera quelque chose d'extraordinaire sur lequel on reviendra tout de suite. On va d'abord écouter un petit exemple d'accompagnement inventif avec ce qu'on a sous la main. C'est extrait d'un documentaire qui s'appelle Calypso Dreams. Le morceau s'appelle Trinidad Dictionary. Donc le monsieur parle du langage particulier, de l'anglais particulier à Trinidad. Et le monsieur, c'est Lord Conqueror. Et on peut remercier Cyprien, justement, via qui on a le morceau. Yes.
The Trinidadian slang is amusing, but most foreigners may find it confusing. So as I see, it is necessary. Trinidad should have its own dictionary. We all consent, English very hard to learn. So we invent a language of our own. But if you just land here, you in a monkey pants. To understand, you won't stand a chance. Like if we say, she tried to mama guy he, this jagabat. Well, not a foreigner at all. Can't interpret that. That means she tried to make he a kununu. She want a man she and she sweet man too. So if we this jammer till she bazodi. As you should see, you can't disagree with me, Papi. Webster should have come to Trinidad to compare his dictionary. One day, they hear a native say that banker had a neighbor looking so total day. A foreigner was sure to jump off his seat and think the banker is a sweet piece of meat to eat. And if you try to convince him, he may tell you your lie. The banker can't bring no tears to a big man eye. No, me show Mr. Sneeze and ask his wife or some to banker for breakfast, please. Here we again. This big belly woman so kung kung say, give me razzmi child getting kukube. When you try to bamboozle your partner Fred, you're giving him a 619 instead. So they really should give the first prize to we for our splendid speaking ability. You see, Webster should have come to Trinidad to complete his dictionary, and we all come king. Da 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 da. So then when a tourist visit the island, he wouldn't have to get himself in confusion, because he know the same kind of slangs like we, using words like papi, show and bazodi. But how you mean, and if by chance you're getting in difficulty, he may say wait and take off his dictionary. I bet you're bound to get in an awful rage if when you're talking to he can't find the page. Another thing, every week we have to change this dictionary to try and keep up with the slangs in La Trinity. And when the year end, print a fresh pile again, so then you see, we really will be on the strain, but it will help tourism, this you must agree. A word like Boboli, of course, will be on the bill, you see. Webster should have come to Trinidad to complete his dictionary.
Retour au studio sur fond du Laventil Rhythm Section. Donc, après avoir tapé sur des tas de boîtes en tout genre, on a évidemment commencé à déterminer des éléments en métal qui sonnent mieux que d'autres, etc. Donc, on aura déjà des Rhythm Section, comment on les appelle, ou Rhythm Section si on veut le prononcer en anglais correct d'Oxford, machin. Ces Rhythm Section donc, utilisent notamment des pièces automobiles et des trucs du genre, du métal assez solide et épais, dont ils choisissent des éléments qui ont des notes qui leur correspondent, etc. Et ils vont accompagner ce qui plus tard seront les steel bands, parce que dans toutes ces recherches sur des objets en métal, on trouve qu'avec un bidon, donc déjà on s'était rendu compte au départ que quand on déforme même un couvercle de boîte de biscuits, à la longue son se modifie, donc on s'est dit « Ah ben on va essayer de maîtriser cette modification ». Donc ils se sont mis à travailler sur des bidons, des grands bidons de 200 litres par exemple, pour en sortir des sons plus maîtrisés. Donc très vite, on va développer trois bidons, on va dire, de base. Le boom pan pour les basses, le guitar pan pour des plus médiums, on va dire, ténor ou quoi, et le ping pong pan pour les notes plus aiguës. Après tout ça, ça va se développer. Je crois qu'aujourd'hui, on a au moins une douzaine de pans différents. Donc le pan, je rappelle, c'est bien l'instrument du steel band. Donc le pan, littéralement, c'est la casserole. Donc c'est le bidon transformé en instrument. Ça, c'est un pan. Voilà, donc maintenant, ils arrivent à couvrir toute la gamme musicale qui leur permet de jouer absolument ce qu'ils veulent. Et avant de vraiment encore passer dans le pan, on va quand même écouter un rhythm section, parce que ces rhythm sections vont quand même accompagner les steel bands. Donc ils ont une vie indépendante en tant que groupe de percussion solo, on va dire, ou comme accompagnement de steel band. Donc toujours quand vous entendez un steel band, dans le fond, il y a aussi du métal percuté, entre guillemets, qui n'est pas des bidons. Donc maintenant, on vient d'entendre sur comme intro le Laventille Rhythm Section, Laventille, un quartier de Port of Spain, et on va entendre un morceau complet cette fois du Point 14 ou Point 14 Iron Giants, les géants de fer de Point 14. Point 14, c'est beaucoup plus au sud, c'est plus du tout Port of Spain. Et le morceau n'a pas de titre, parce que souvent ces morceaux rythmiques n'ont pas de titre, ils sont enregistrés comme ça. Et voilà, j'attends que c'est parti. Point 14, Iron Giants. We'll be right back.
Waouh, c'est du précis là.
Ah, ça.
Avec Alexis, donc, on est sur notre voyage, troisième épisode du voyage en Calypso. Aujourd'hui, un épisode qui colle un peu à l'époque. Tant de carnaval, tant de fêtes, tant de dépenses.
Ouais, physique et autres, oui. Et donc, voilà, toujours dans notre parcours des percussions. J'ai beaucoup parlé de nos pannes et de nos bidons. On n'en a pas encore vraiment entendu, donc on va quand même rentrer vraiment dans le sujet maintenant. Donc, on est autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout à partir de là qu'un énorme apport de bidons se présente à Lille grâce à la présence de GI américains. Seconde Guerre mondiale, occuper les îles, etc. Donc Trinidad sera indépendante que dans les années 60. Donc,
des bidons d'essence, des bidons d'eau, des bidons de...
Surtout les bidons d'essence, oui, de tous les avions, etc. Je ne sais pas si les bateaux utilisaient des bidons, je suppose que ça, c'est pas pour les bateaux, mais pour les avions, etc., il y avait plein de bidons. Et surtout à l'époque, quand un bidon est vide, on le jette quelque part. Et heureusement, il y avait des gens pour les récupérer. Donc, le travail sur le bidon actuellement, c'est d'abord de rendre concave ou convexe, ça dépend comment on le regarde, mais aussi le résultat qu'on veut. Une surface métallique du bidon, donc une des surfaces planes, dans lequel on détermine des zones qui vont pouvoir produire des notes différentes, et puis on en fait des tas de différents, et donc on obtient une gamme chromatique aussi large qu'on veut. Dans les sons de vraiment très bas, ça, on n'y arrive pas. Je veux dire, par exemple, c'est les gros bom-bom qu'on entend dans les orchestres symphoniques. Ça, on n'arrive pas avec un bidon, quand même. Mais sinon, tout ce, ce qu'un piano peut faire, un steel band peut le faire, quoi. Et on va entendre d'abord comment c'était dans les premières années du développement, donc avec un son encore assez brut et avec pas encore tant de subtilité que ce que je viens de dire maintenant. Le groupe s'appelait à l'époque le Hell's Gate Steel Band. Il existe encore aujourd'hui sous le nom de Trinidad All Stars, parce qu'à une certaine époque, Hollywood a beaucoup influencé le nom des groupes de steel band. C'est un peu comme ça, il y en a, certains ont des noms de films ou d'autres. Et le Hell's Gate Steel Band nous interprète le morceau Archie, en version steel band donc, mais encore avec une bonne présence de rhythm section, vous l'entendrez, très présente. Petite transition pour... Donc ça, c'était un son plutôt ancien. Maintenant, un son, on va dire, intermédiaire, donc avec des pannes déjà plus développées dans les années 70.
le Fonclair Steel Band et le morceau Carnival, ça tombe bien, écrit par le Mighty Duke. Oui, on déménage un peu plus. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des festivals de ça, des concours dans toutes les Caraïbes, en fait. Ça, le PAN a très vite essaimé, même dans le monde entier, mais particulièrement vite dans les Caraïbes. Je veux dire, en 10 ans, ils étaient déjà dans la plupart des autres îles et aux États-Unis. Et
maintenant... On a un mélange avec quelque chose de symphonique, là, dans ce qu'on vient d'écouter.
Oui, ben justement, on y arrive. Ce sera... pour notre dernier morceau, on sera tout à fait dans le symphonique.
Et là, on y était déjà un peu.
Pour le son, oui, et pour les compositions et les sons. Mais par contre, la composition est une composition d'un auteur de calypso, pas d'un compositeur d'accord. De musique symphonique classique, entre guillemets.
Mais donc, lui, il a fait cette mélodie, et puis il y a une espèce de batucada qui vient se mélanger.
Oui, c'est transposé pour une centaine de musiciens.
C'est ça.
Oui, c'est des groupes. Donc, l'instrument peut être utilisé comme un instrument solo dans un groupe d'autres choses, même un groupe rock, n'importe quoi. Ça, il y a énormément d'exemples, et malheureusement, j'aurai pas le temps. J'en avais prévu un, mais je vais devoir l'enlever parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui.
de passer cet exemple. Donc j'essaierai de le replacer dans une autre émission. Lord Kitchener lui-même va sûrement passer dans une autre émission, et mais notamment ce morceau-ci, Pan in A Minor, où l'intérêt était qu'il chantait justement de sa recherche pour renouveler le son du pan. Donc c'est un morceau très musicologique, c'est assez rigolo. Mais donc non, je dois encore vite vous parler d'un autre grand mouvement de percussion avant qu'on conclue dans la symphonie totale. J'avais parlé de présence d'énormément d'Indiens dans toutes les anciennes colonies anglaises après l'abolition de l'esclavage, parce qu'ils ont importé donc des Indiens d'Inde, mais en Amérique, qui ont été importés parce que les esclaves ne voulaient ou ne pouvaient plus travailler dans les plantations. On peut comprendre qu'ils en aient eu assez, et on peut se dire que les maîtres n'avaient pas trop envie non plus de les avoir après comme employés, alors qu'ils étaient leurs esclaves. Donc il y a eu un moment vraiment dur à ce moment-là pour eux, parce qu'ils avaient souvent pas de sous, pas d'argent, pas de travail possible. Mais bon, résilience, au moins dans la musique, là ils ont répondu à toutes les agressions possibles, ils ont chaque fois rebondi. On pouvait pas faire de tambour, on a pris des bambous, on pouvait pas faire des bambous, on a pris des boîtes de biscuits, et on a fini par trouver qu'avec un bidon on pouvait créer un orchestre symphonique. Pouf, on le fait et on épate tout le monde. Moi j'applaudis.
Même aussi.
Voilà. Mais donc, pour notre présence indienne, elle a quand même amené un élément percussif de nouveau dans les Antilles, un peu en général, mais aussi très fort à Trinidad. Ce sont les tassa drums.
Donc, une nouvelle percussion, alors. Ou toujours du steel drum.
Donc, non, là, on est dans un autre monde de percussion. C'est vraiment donc. La base, à trois, il y a moyen de fonder un groupe de tassa drums. Un avec une grosse caisse, l'autre avec une caisse claire qui lui pend autour du cou verticalement, et on tape avec des baguettes. Et un troisième avec des mini cymbales, un peu, je ne sais pas comment vous voyez les Hare Krishna, ting, 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 des petites cymbales comme ça. Mais qui est un fond culturel immense de l'île. Il faut dire qu'elle est quasiment à moitié peuplée de gens d'origine indienne, donc toujours indienne d'Inde, hein, je précise. Donc voilà. Donc là, de nouveau, grâce à Cyprien, j'ai un enregistrement ancien effectué par Alan Lomax d'un groupe qui s'appelle The Cockerit. Et on va enchaîner avec un groupe plus moderne, donc là je parle dans les années 2000, le Petrotrin Budu Singh Tassa Group. Comme ça, vous entendez aussi une évolution dans le son, et surtout dans le deuxième, on entend qu'il y a eu à un moment une introduction du roulement de caisse claire qui va devenir typique et emblématique des Tassa Drums. Tassa Drums, ce qu'eux-mêmes appellent parfois sur place le kettle, donc après le pan, la casserole, on a le kettle, la bouilloire. C'est juste, voilà où on retrouve l'inspiration, apparemment, dans la cuisine pour l'instrument.
Dans la cuisine, oui.
Et donc, c'est une tradition qu'on trouve encore en Inde. Hein. Ça, c'est pas exclusivement resté dans les Antilles. Et même au Pakistan, il y a une version de tassa drums, mais qu'on appelle dhol music, D-O-H-L, je pense. Il y a H quelque part, en tout cas. Et la différence, c'est que le dhol music, c'est une percussion avec un musicien, un côté grave, un côté aigu, boum boum, tac tac. Et donc, eux, ils sont plus acrobatiques, ils tournent avec leurs percus, etc. C'est assez joli, il y a moyen de trouver des vidéos de dhol music aussi, dans les montagnes perdues du Pakistan. Voilà, mais donc, on revient sur les héritiers de tout ça, Caraïbes, avec les tassa drums de d'abord Cockerit et puis Petrotrin Budu Singh Tassa Group.
Thank you.
Voilà, voilà. Ouf, on respire, on halète.
Voilà, donc Tassa Drums, très important là-bas. Donc c'est aussi, ça peut être des très grands groupes de 8-10 musiciens ou des groupes très réduits de 3. Donc ça peut, on peut les voir sur scène, mais aussi ils animent des fêtes de mariage et des tas de trucs. Donc des mariages musulmans indiens souvent dans les îles là-bas. Y a un groupe qui déambule dans le public, 3-4 musiciens et qui jouent de ça. Et c'est amusant parce que nous, on a tendance à vouloir sauter dans tous les sens. Et là, on voit les gens qui remuent un petit peu, mais très, très calme, en fait. Cela dit, on peut le voir aussi des Tassa Drums dans des soirées à Trinidad où les gens deviennent fous. Ça existe aussi.
Mais donc, voilà. Ça s'est bien popularisé dans toute l'île, bien que ça ne vienne qu'à la base, que entre guillemets.
Oui, c'est pas que. C'est pas que vraiment un mélange comme le reste, quoi.
D'accord, ouais. Ok.
Du calypso. C'est pas du calypso, mais c'est des voisins tellement en communication que c'est difficile de parler de percussion à Trinidad et de ne pas dire Tassa Drums dans la conversation, parce que ce serait oublier un élément essentiel de l'île, quand même. Voilà. Et donc. Ben, on arrive à la fin, déjà. Donc, pour conclure, j'avais promis un peu de plus symphonique. Donc, on va entendre au moins le début, en tout cas, du 4e mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak par les Tropical Angel Harps, un groupe assez ancien aussi. Je ne sais pas s'ils jouent encore, je n'ai pas vu de traces récentes, mais je ne garantis rien. Voilà, Symphonie du Nouveau Monde, ça tombe bien, on y est. Dans le Nouveau Monde, et joué par des gens du Nouveau Monde sur des instruments nouveaux du monde. Voilà.
Ok, bah écoute, Alexis, un grand merci pour toute cette richesse que tu nous apportes et que tu proposes aux éditeurs de Radio Panique. C'était donc l'émission de Djiboutique. On vous rappelle que c'était l'épisode numéro 3 du Calypso.
Oui.
Et que cette série va continuer, et plus ou moins mensuellement, que 2 épisodes sont déjà en ligne sur notre site www.djiboutique.be. Le premier qui raconte un peu la genèse, le contexte du calypso, le deuxième qui fait un focus sur la fameuse chanson
Rum and Coca-Cola,
voilà, avec aussi quelques propositions de musique chantée par des femmes de calypso.
Oui.
Et puis maintenant, vous avez, si vous étiez à l'écoute, donc c'était le carnaval et voilà, le carnaval et le steel band et le steel pan.
Oui, ça va ensemble.
Ça va ensemble.
L'un vient de l'autre et retourne à l'un, etc.
Ok, merci
et
encore.
Entre parenthèses, tu parlais de femmes. Je voulais préciser que le premier groupe entièrement féminin, Steel Band, date quand même du début des années 50 à Trinidad.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est un thème... on ne les remarque pas beaucoup, mais elles sont très actives sur place aussi.
Super, merci Alexis et bonne soirée à tous.